Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média au menu. Médias et culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, on parlera de super-héros et de super-légumes de saison, c'est-à-dire d'été, avec l'ami Laurent Mariotte. Charles Decan, dans le journal des médias, vous dira tout sur la succession de Jean-Pierre Pernaut au 13h de TF1 et sur la succession de Marie-Sophie Lacaro au 13h de France 2, puisque c'est elle qui va prendre son fauteuil à Mercato. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Un sommaire aujourd'hui très très riche. Notre infomédia, c'est le sémiologue spécialiste des médias François Josse qui sera avec nous pour un ouvrage paru aux éditions du CNRS consacré à la haine dans les médias. Avec lui, on se demandera comment en sortir. Plusieurs mois d'enquête aux quatre coins d'un pays dans lequel il est quasiment impossible de filmer, l'Algérie. C'est le document diffusé dimanche dans Enquête Exclusive. Nous serons avec le présentateur Bernard de la Villardière et le journaliste rédacteur en chef Arnaud Levert. Et puis, la romancière Anne Scott, dans La Grâce et les Ténèbres, elle raconte la katiba des narvalos. Ce sont des justiciers de l'ombre qui existent vraiment et qui traquent les djihadistes sur Internet. C'est tellement documenté que c'en est presque du journalisme. On retrouvera évidemment son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Je vais vous demander quel est le sommaire, même si je viens de l'indiquer
Vous avez tout vendu déjà.
Mais non, pas tout.
La remplaçante de Jean-Pierre Pernaut dévoilait les coulisses de son arrivée.
Qu'on attend.
Une nouvelle émission victime du Covid et plus d'Europe à la télé.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
C'est TF1 qui a pris la première position avec la suite de la série française Grand Hôtel. Les deux épisodes ont été suivis en moyenne par 3,7 millions de téléspectateurs pour 18,9% de part d'audience. C'est stable et c'est toujours pas foufou. C'est France 3 qui est deuxième, on va y arriver, avec le film français Boomerang avec Laurent Lafitte au compteur 2,4 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 11,7%. M6 est troisième avec sa série américaine 911. Les deux épisodes inédits ont séduit une moyenne de 2,3 millions de personnes. C'est 11% du public, mais M6 est leader sur les femmes de moins de 50 ans à 22,5%. C'est 3 points de plus que TF1.
Culture Média.
Et puis comme tous les jours depuis mardi, on commence ce journal des médias par les suites du départ de Jean-Pierre Pernaut.
Et oui, c'est un peu notre feuilleton de la semaine, un rebondissement par jour, et celui-ci on l'avait vraiment pas vu venir. Pas plus en même temps, vous allez me dire, que l'annonce du départ de la star du 13h.
C'est vrai.
3 jours après avoir révélé qu'il quitterait son fauteuil en décembre, Jean-Pierre Pernaut a un successeur officiel, ou plutôt une successeur.
Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h.
Cette voix, vous la reconnaissez sans doute, c'est celle de Marie-Sophie Lacaro. TF1 est allée shipper à France 2 la journaliste qui présente actuellement le 13h de la chaîne publique. En fait, c'est du jamais vu. Bien sûr, des journalistes sont déjà passés d'une chaîne à l'autre, ils ont animé des JT sur les deux chaînes, mais jamais un titulaire n'avait changé de crèmerie pour prendre les rênes du journal d'en face à la même heure.
Et ça faisait 4 ans que Marie-Sophie Lacaro était aux commandes du 13h de France 2.
Oui, et avant de succéder à Élise Lucet à ce poste, la journaliste avait fait ses débuts en région, à France 3 Midi-Pyrénées, en tant que joker d'abord, puis animatrice titulaire du JT, on est alors en 2005. 5 ans plus tard, elle rejoint l'équipe de France 3 Nationale, où elle devient joker de Catherine Matoche et de Carole Gessler, avant d'arriver à France 2 en 2014.
Et alors pourquoi TF1 est-elle allée chercher Marie-Sophie Lacaro?
Eh bien, il y a un dénominateur commun dans son arrivée à TF1 et dans son arrivée à l'échelon national de France 3, et même à son arrivée sur France 2, c'est Thierry Tuilier. C'est le patron de l'info de TF1. À l'époque, c'est lui qui avait promu Marie-Sophie Lacaro quand elle présentait les journaux de France 3 Midi-Pyrénées et qu'il était en charge de l'info à France Télévisions.
Donc en 2005, comme vous l'avez dit.
Voilà, et c'est lui aussi qui l'a nommé en 2010.
Ah, pardon.
Voilà. C'est lui aussi qui l'a nommé joker d'Élise Lucet au 13h en 2014. Hier, c'est lui qui a annoncé l'arrivée de la journaliste à la rédaction de TF1 et il a souligné son ancrage régional, car vous le savez, le 13h de la Une veut à tout prix conserver ce côté patrimoine et le lien particulier que Jean-Pierre Pernaut et ses équipes ont tissé avec les téléspectateurs.
Et donc, selon Thierry Tuilier, Marie-Sophie Lacaro, comme on dit, coche toutes les cases.
C'est ce qu'il a dit aux équipes, oui, elle aime les régions, elle est proche des Français, elle est bienveillante. Il a utilisé l'expression « le changement dans la continuité ». Du changement parce que c'est une femme, bien sûr. Selon lui, Jean-Pierre Pernaut voulait cette rupture. Il a dit aussi « vous et elle, c'est un alliage qui va cartonner ». Il a souligné sa capacité d'adaptation à la culture de TF1 et à la culture spécifique du 13h de TF1. Et il a aussi demandé aux équipes de l'accueillir avec bienveillance parce que le défi à relever, tout le monde le sait, est immense.
Et alors là, tout va si vite. Quand va-t-elle arriver à TF1?
Alors, on savait que le départ de Jean-Pierre Jean-Pierre Pernaut était fixé au 18 décembre. Marie-Sophie Lacaro lui succédera début janvier avec Jacques Legros aux commandes pour les fêtes. Mais la journaliste arrivera bien plus tôt chez TF1 dans les semaines à venir pour rencontrer les équipes, mais aussi pour faire le tour de tous les correspondants en région. Son départ de France 2 s'est d'ailleurs accéléré suite à l'annonce d'hier. Elle l'ignorait a priori, mais son dernier JT de 13h, c'était hier. Écoutez comment elle a dit au revoir aux téléspectateurs hier à la fin de son journal.
Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain, 13h.
Même pas l'occasion de faire ses adieux.
Non, hier soir à la fin de son 20h, Anne-Sophie Lapix a annoncé que Nathanaël de Rinxin serait aux commandes du 13h ce vendredi. Il faut dire qu'à France 2, ça a été un peu la douche froide. Apparemment, à part la direction, personne n'était au courant. La rédaction a appris la nouvelle par l'article du Figaro qui est tombé hier après-midi. Alors pour ceux qui ont suivi le feuilleton, c'est d'ailleurs pas anodin que ce soit le Figaro qui ait sorti l'info. Le quotidien a contacté TF1 en fin de semaine dernière pour indiquer qu'il était au courant du prochain départ de Jean-Pierre Pernaut. Et la Une a négocié pour avoir du temps pour que le journaliste l'annonce lui-même à ses équipes.
C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés.
Absolument. Pour en revenir à France 2, la surprise a donc été totale. Comme je vous le disais plus tôt cette semaine, beaucoup de noms avaient circulé pour succéder à Jean-Pierre Pernaut, mais pas vraiment celui de Marie-Sophie
même
Lacaro.
Pas du tout.
Voilà. Hier après-midi, une réunion de crise a donc été organisée à France 2. Il faut vite lui trouver un successeur. Ça sera la première décision majeure de Laurent Guimier qui vient à peine de prendre les rênes de l'info de France Télévisions. Sur Twitter, il a souhaité bon vent à la journaliste. Il s'est aussi permis un petit commentaire en forme de clin d'œil. Plus que jamais, les talents sont à France Télévisions, mais ce bon vent ne l'a pas empêché de retirer Marie-Sophie Lacaro de l'antenne dès ce vendredi.
Et alors, qui pourrait prendre la place justement de Marie-Sophie Lacaro?
Alors ce midi, ce sera donc Nathanaël de Rinxin, mais a priori, il ne devrait pas reprendre le fauteuil de titulaire. Parmi les noms qui circulent, Thomas Soto, Jean-Baptiste Marteau ou Julien Benedetto, qui sont tous à France 2. On ne sait pas encore si la décision sera prise à temps pour le journal de lundi ou si France 2 va temporiser en continuant à faire un appel à un joker le temps de trouver la perle rare.
Hier, on se demandait donc qui allait présenter le 13h de TF1. Donc aujourd'hui, on se demande qui va présenter le 13h de France 2.
Voilà, le feuilleton continue.
Et puis je précise que nous recevons, on en est très fiers, Thierry Tullier, le patron de l'information sur TF1, qui sera ici pour nous raconter comment sont passées ces choses de l'intérieur. On va continuer avec l'autre grand feuilleton de la rentrée.
Voilà, il est moins réjouissant celui-ci. Je vous le disais hier, pas un jour ou presque sans qu'on parle des conséquences du Covid-19 sur les médias. Et je n'exagérais pas, cette fois c'est la quotidienne sur France 5 qui est touchée. L'émission présentée tous les midis par Maya Loquet et Thomaïs ne sera pas diffusée la semaine prochaine, comme l'a révélé hier Le Parisien, enfin pas en inédit évidemment. Tout a commencé mardi quand un invité de l'émission a ressenti des symptômes du Covid-19 après son passage sur le plateau. Alors lui, il a eu de la chance, il n'a eu à attendre que 2 jours pour avoir les résultats qui étaient positifs. Du coup, toute l'équipe de La Quotidienne est mise à l'isolement pour 7 jours. Ce vendredi, à 11h45, les téléspectateurs retrouveront une émission inédite parce qu'elle avait déjà été mise en boîte, mais la semaine prochaine, tous les enregistrements ont été annulés. Alors, ne vous inquiétez pas trop pour l'équipe. Comme l'a souligné Thomaïs hier au Parisien, l'émission avait déjà pris des précautions pour minimiser les risques de contagion. L'invité est très loin des animateurs. La table a été agrandie, le canapé est plus long. Ça ne devrait donc être qu'une petite semaine de repos forcé. Tout le monde sera testé et si les résultats sont négatifs, les tournages pourront reprendre dès le 28 septembre.
Mercredi, la présidente de l'Union européenne donnait son premier discours consacré à l'état de l'Union.
Un discours majeur où elle a appelé à l'instauration d'un salaire minimum dans tous les états de l'UE, à renforcer le financement de la santé ou encore à lutter contre les discriminations. Mais tout ça, vous ne l'avez sans doute pas vu à la télé en France. Aucune des chaînes d'info n'a proposé une retransmission en direct du discours. Et globalement, on a assez peu parlé de ce moment important de la démocratie européenne. C'est précisément ce que regrette Clément Beaune, qui est secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il a lancé un appel aux médias publics pour qu'ils parlent plus d'Europe.
Un appel, mais est-ce qu'il pourrait les y contraindre?
Ben, c'est pas exclu, loin de là. Voilà ce qu'il a dit hier sur France Inter, je cite « Cherchons tous les moyens possibles de contrainte ou de pression pour y arriver. Toute pression publique, notamment du Parlement à cet égard, est absolument nécessaire. Je crois que nous devons faire jouer cette obligation de service public. » Il a également indiqué qu'il allait proposer à Jean Castex une mission parlementaire rapide sur ce sujet.
Merci beaucoup Charles Decan. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias et je le rappelle, nous serons également avec Thierry Tullier, le patron de l'information de TF1, pour sa première interview radio après le départ de Jean-Pierre Pernaut.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Pourquoi tant de haine envers les médias? C'est à cette question et à beaucoup d'autres que tente de répondre François Josse dans son livre « Médias, deux points, sortir de la haine » avec un point d'interrogation à la fin. Comment est-on passé de la défiance à la haine? De quels mots accuse-t-on les médias? Et que faire pour rétablir la confiance des Français envers ce contre-pouvoir, faut-il le rappeler, indispensable en démocratie? Bonjour François Josse.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, sémiologue, fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Donc votre livre « Médias, sortir de la haine, point d'interrogation, est paru aux éditions du CNRS, c'est une référence. Pourquoi un point d'interrogation? Vous auriez aimé qu'on y reste dans la haine?
Non, c'est pas ça. C'est une très bonne question, parce que le point d'interrogation, j'ai eu du mal à l'imposer. Mon éditeur n'en voulait pas, parce qu'il paraît qu'on ne met pas de point d'interrogation dans les titres.
Non, mais peu importe l'usage, oui. Que veut-il dire dans votre esprit?
J'y tenais. Pourquoi? Parce que c'est pas un livre de recettes. C'est pas un livre qui vient dire voilà comment il faut faire, etc. C'est un point d'interrogation qui signifie est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, pour sortir de la haine et faire cet effort ou non? C'est une proposition.
C'est une bonne question. Tout le monde n'est pas d'accord? Vous pensez qu'il y a des gens qui se complaisent dans la haine et dans ce climat délétère?
Bien sûr, j'en suis certain. Quand je vois, s'il suffit d'aller sur certaines pages de Facebook pour voir la haine, par exemple, ces derniers temps avec les anti-masques, il y a toute une campagne contre les médias. De toute façon, ils nous mentent. De toute façon, ils sont inféodés aux puissances de l'argent et au pouvoir, etc.
Pardonnez-moi, ça, c'est pas de la haine. On a le droit de dire que les médias mentent, on a le droit de le penser. Et si c'est argumenté, ça n'a rien à voir avec la haine. Vous savez très bien qu'on nous a menti, puisqu'on nous a expliqué pendant des mois, je ne suis pas du tout un anti-masque, on nous a expliqué pendant des mois que les masques ne servaient à rien, et maintenant on a une amende si on n'en a pas. Donc il faudrait savoir.
J'essaie de montrer dans le livre la différence qu'il peut y avoir entre la critique et la haine. Moi, ça fait 40 ans que je critique les médias. Ouais. J'en fais même des cours, je pense que j'ai même souvent des journalistes que je rencontre qui ont été mes étudiants, donc je sais ce que c'est critiquer, mais il ne faut pas pour autant, si vous voulez, arriver à se boucher les oreilles et à ne plus vouloir... Il y a un tiers des Européens qui n'écoutent plus les informations parce que ça les déprime. Alors, moi qui adore l'information, moi aussi d'ailleurs, par moments je ferme parce que j'en ai marre avec le Covid, d'entendre tout le temps des trucs sur le Covid, j'en peux plus. Ouais. Et donc, vous savez, pendant le Brexit, il y a eu une chaîne de télé anglaise qui a carrément dit, on ne pourra plus parler du Brexit chez nous.
On arrête, stop Brexit. Je me souviens de cette campagne, voilà. Stop Brexit. Voilà. En même temps, vous savez très bien que si les médias ne parlaient pas du Covid, il y aurait exactement le même phénomène de rejet en disant pourquoi ils ne parlent pas d'un sujet aussi important. Quoi qu'on fasse,
bien
on a tort parfois.
Bien sûr, mais il y a aussi la façon.
Justement, on arrive à la façon. Vous écrivez ceci. Des insultes aux actes violents, il n'y a qu'un pas. Aux États-Unis, Anna Navarro, consultante républicaine modérée et critique du président Trump, s'est élevée contre ces insultes continuelles envers les médias. C'est elle qui parle. Il va bien trop loin, c'est une incitation à la violence. Et elle ajoute, il va finir par faire tuer quelqu'un dans les médias. Si j'ai écrit ce livre, c'est précisément parce que je suis persuadée, là c'est vous qui parlez, que ce risque existe. Vous avez vraiment peur de ça en France?
Bah, écoutez,
vous voyez venir des morts.
Attendez, pendant la crise des Gilets jaunes, il y a eu un incendie, c'est France Bleu Isère qui a été incendié, il y a eu des kiosques à journaux qui ont été incendiés, il y a des journalistes qui se faisaient agresser. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. C'est-à-dire que, quand on en arrive à des actes comme ceci, quand on arrive... Vous savez, allez sur Twitter et faites le hashtag Merdia. Et bien, à n'importe quel moment.
Dites ce que c'est pour les gens qui n'ont
pas. Les médias, c'est de la merde.
C'est la contraction des médias et de merde. Pardon de le dire.
Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que c'est international. C'est-à-dire que les Espagnols l'emploient aussi. Et c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a cette haine continuelle qui se transforme, effectivement, éventuellement, si ce n'est en mort, au moins en agression très grave.
Votre constat, c'est celui-ci. L'heure n'est plus à la discussion qu'on revendique, vous et moi, ici, mais à la haine. Comment cela a-t-il basculé de l'un vers l'autre?
Alors, je montre d'un point de... Il y a une partie historique, parce que je crois que c'est très important d'essayer de situer les trucs. Il y a eu plusieurs moments où les médias ont perdu la confiance. En 88, la confiance dans les médias était assez grande. Et puis il y a eu, alors pour les plus jeunes, ça ne dit pas grand-chose, mais il y a eu ce charnier de Timișoara pendant la révolution roumaine, où on a fait croire, que les révolutionnaires, entre guillemets, ont fait croire qu'il y avait eu un charnier, que
Ceausescu
avait abattu des milliers. On a dit 12 000 personnes, alors qu'on en voyait 12 sur l'écran, c'est absurde. Il y a eu la guerre du Golfe, où le direct a été totalement mis en cause, et où CNN a montré la guerre en direct, et ça a posé des questions pour les journalistes eux-mêmes, qui se sont posés des questions. Il y a eu 1995, alors avec un écart considérable entre les journalistes et les Français, c'est-à-dire que les journalistes se sont réjouis des mesures de Juppé sur la sécurité sociale, et les Français ont fait des manifs absolument incroyables. Donc on a vu qu'il y avait une coupure entre les deux. jusqu'à, pour aller vite, parce qu'il y a d'autres, il y a eu d'autres cas, mais en 2015, les attentats, où certains journalistes ont dit qu'il y avait, dans une chambre froide de l'hypercachère, des gens qui s'étaient réfugiés. Et donc, où les médias ont joué un rôle, effectivement, là, très négatif.
En l'occurrence, là, c'était vrai, et c'est ce qu'on a reproché aux médias, c'est que, comme ils donnaient une information vraie, mais confidentielle, oui. ils donnaient des infos aux terroristes, puisque vous en parlez. Est-ce que l'arrivée des chaînes infos en continu a contribué à cette haine croissante envers les médias?
Oui, je pense en partie. Pour quelles raisons? D'une part, parce que il faut constamment montrer ce qui ne va pas, parce que sinon, il n'y a pas d'infos. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, les gens en ont marre, c'est-à-dire que ça pèse sur leur morale très très fortement. Et puis, d'autre part, il y a la multiplication des prises de parole des experts avec les contradictions qu'on voit. Et une des choses toutes simples que je montre dans ce livre, c'est que on confond très vite contradiction, erreur et manipulation. Par exemple, pendant l'attentat de Strasbourg, il y a eu une annonce qu'il y avait eu 4 morts, et puis le lendemain, on a dit 2 morts. Ça suffit pour déclencher tout un climat d'agression envers les médias en disant « mais ils se foutent de notre gueule, on nous dit un jour 4 morts, le lendemain 2 morts, etc. » Et ça, on l'a vécu avec le Covid constamment. C'est-à-dire, un docteur nous disait ça, et puis le lendemain, il y en avait un autre qui disait le contraire.
Et en plus, en l'occurrence, c'était exact, puisqu'il y avait un docteur qui disait une chose et l'autre le contraire, et les médias se faisaient la caisse de résonance de ces choses-là. Je remarque, vous en parlez dans votre livre, que pour la première fois, des gens marchaient sur des organes de presse. C'était pendant la crise des Gilets jaunes. On en parle, et beaucoup de choses encore, avec François Jost, avec nous dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes avec François Jost, professeur émérite à la Sorbonne et sémiologue et qui signe Média, sortir de la haine avec un point d'interrogation. C'est publié aux éditions du CNRS. On parlait des Gilets jaunes parce que vous avez étudié ce mouvement, évidemment. On est en 2018. C'est même la couverture du livre, le visuel. Selon vous, c'est un déclencheur ou c'est un révélateur de cette haine envers les médias?
Je pense que c'est un peu un déclencheur. C'est une bonne question, révélateur, déclencheur, je ne sais pas exactement. Mais c'est sûr que j'ai écrit ce livre pour cette raison-là. D'une part, en me demandant pourquoi, justement, cette haine. Et d'autre part, en essayant de voir quelle était, comment dire, la philosophie implicite des Gilets jaunes par rapport aux médias. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'un bon média serait? Et par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on a valorisé, du point de vue technique, le plan séquence. C'est-à-dire que pour les Gilets jaunes, ce qui était la vérité, c'était de montrer des plans sans montage et des plans séquences. Or, dans les chaînes d'information, c'est extrêmement difficile de faire ça parce que le direct demande d'être fragmenté constamment pour donner l'impression, justement, d'être en prise sur l'événement.
Et d'où le succès de certaines chaînes sur YouTube, comme celle de Rémi Buzyn, par exemple, qui était en direct continuellement, qui allumait la caméra et qui la laissait tourner pendant 30, 40, 50 minutes.
Et RT. Et RT, la chaîne
RT France,
russe,
la chaîne
RT France, qui faisait ça continuellement. Et bon, je montre, si vous voulez, pour un théoricien de l'image, on sait que c'est un petit peu naïf, parce que de toute façon, le montage et le direct ne s'opposent pas. Un match de foot est monté en direct. Oui. Sinon, on s'emmerderait, je dirais.
Ouais. Non, mais mécaniquement, on n'a pas les moyens de mettre 10 caméras de télévision autour d'une manif.
Et d'autant plus qu'on ne sait pas normalement exactement, et on ne savait pas où elles allaient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les Gilets jaunes, en fait, l'image était réduite très fortement au corps de celui qui manifestait, c'est-à-dire c'était le point de vue de celui qui manifestait pas. Et d'une certaine façon, évidemment, si on faisait ça, ça annulait le contradictoire, d'une certaine façon. Ça annulait les forces de l'ordre, etc. Et donc, on voit comment ce qu'on demandait aux médias, c'était au fond une subjectivité très grande.
Avec ceci, vous parlez de subjectivité, et en même temps, un reproche qui a été fait, c'est le manque d'objectivité.
Oui.
Parmi tant d'autres qui étaient faits aux journalistes, c'était de ne pas montrer les vrais gens. Mais c'est quoi les vrais gens?
Alors, ça,
qui sont les vrais gens?
Ça, c'est très intéressant parce que les vrais gens, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une expression qui est arrivée avec la télé-réalité.
Ouais.
Bon, et ce qui est vrai, et ce qui a déclenché, je pense, aussi les mouvements des Gilets jaunes, ce qui est absolument vrai, c'est qu'il y a toute une catégorie de gens qui n'apparaissaient plus à la télévision.
Ouais.
Autant dans les années 50-60, il y a des reportages magnifiques sur ce que sont les mineurs, les agriculteurs, les instituteurs, etc. Autant dans les dernières années, le CSA a montré dans des rapports que, par exemple, dans le journal télévisé, vous avez 78% des gens qui apparaissent étaient des cadres sup. alors qu'ils sont 25% en France. Certaines professions n'apparaissent pas ou n'apparaissent que dans des jeux. Beaucoup de professions d'employés, intermédiaires, n'apparaissent pas. Mmh. Et effectivement, je veux dire, ça a enlevé beaucoup de dignité aux gens. C'est-à-dire les gens disent « mais nous, on n'existe pas ». Et un des points forts, peut-être, un des points positifs du Covid, c'est que ces gens sont réapparus. Mmh. C'est-à-dire que tous ceux qu'on ne voyait pas, qu'on invisibilisait, les infirmiers, mais aussi les éboueurs, les brancardiers, etc. Tout d'un coup, ils avaient une vie. Ils ont existé.
Comment on peut sortir de cette contradiction ? Les gilets jaunes critiquaient les médias en disant « on ne parle pas de nous », et les gens, qui n'étaient pas forcément des gilets jaunes, critiquaient les médias en disant « ils font la part trop belle aux gilets jaunes ».
Eh bien, je crois que c'est très compliqué parce que, objectivement, une étude de l'INA a montré qu'on avait évidemment parlé énormément des gilets jaunes. Près de 20% de tous les JT, ça a été consacré aux gilets jaunes. Mais je crois que le vrai problème, c'est que, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Et moi, ça m'a toujours frappé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais lors des débats pour les présidentielles d'entre-deux-tours, selon son avis, on trouve que son candidat était meilleur que l'autre.
Évidemment.
Voilà. Et c'est, donc, il n'y a aucune objectivité là-dedans. Et donc, je crois que ce qu'il faut apprendre, évidemment, c'est ce que les journalistes savent très bien, mais qu'il faut redire, c'est que le contradictoire est la raison d'être de la démocratie. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir des gens avec qui on n'est pas d'accord dans les médias, et ce n'est pas pour autant qu'on doit les détester. Ce qui est arrivé un petit peu avec les Gilets jaunes.
Il faut quand même reconnaître, et là je vais prendre le point de vue adverse, que je me souviens par exemple du référendum pour l'Europe. Je crois qu'une étude avait été faite qui montrait que 97% des journalistes des éditos étaient pour le oui à l'Europe et c'est le non qui l'a emporté.
Oui.
Donc il y avait quand même très très peu de diversité d'opinion.
Oui, ça c'est vrai.
Dans la case des journalistes.
C'est une des raisons aussi de la détestation, c'est l'impression que les journalistes forment un microcosme, une caste qui est coupée du monde.
Est-ce qu'on jouait le fait que certains hommes politiques ont osé s'attaquer aux médias, ce qui ne se faisait pas du tout avant, je pense à Jean-Luc Mélenchon ou je pense à Marine Le Pen?
Ben oui. Alors, une des choses que je montre, je pars d'un discours de Le Pen, le père, en 2000, et je montre que toute la haine qu'il a contre les médias, etc., tous les mots qu'il emploie, on les retrouve aujourd'hui dans la bouche de aussi bien de Mélenchon que d'autres.
Quels mots ?
Par exemple, là vous me prenez un petit peu. Par exemple, le fait que dire que les médias sont gouvernés par des gauchistes venus de 68, etc.
C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui reproche aux médias d'être tenus par des gauchistes.
Non, c'est pas Mélenchon.
Vous parlez
en l'occurrence. Non,
de Jean-Marie Le Pen.
Je pense à d'autres. Oui. Non, ou évidemment à sa fille. Mais oui.
Entre la critique et la haine des médias, il y a une troisième voie. Vous en avez parlé un petit peu. Ouais. Éviter d'allumer la radio ou d'aller sur un site d'info pour ne pas plomber sa journée. Vous êtes de quelle voie vous-même, François Josse, maintenant ? Première, deuxième ou troisième voie ?
Alors, critiquer les médias, c'est mon boulot. Ouais. Donc, il est hors de question que ça s'arrête, évidemment. Mais, je veux dire, il faudrait... critiquer les médias me paraît très important. Mais il faudrait que les médias, je veux dire, l'acceptent aussi. C'est-à-dire que, quand vous faites une critique sur les médias, parfois vous faites complètement démolir par les journalistes. Or, il faut admettre qu'on puisse participer. Je pense qu'un des problèmes, c'est d'être à l'écoute de ce que veulent les gens. Quand il y a un problème d'information, les journalistes se défendent en disant « mais on va très vite, on a la hiérarchie, on a des tas de trucs comme ça ». Mais le public, en fait, il s'en fout un peu de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est une information qui le satisfait.
Autre reproche qui est fait, ce sera ma dernière question, c'est que les médias sont à la solde du pouvoir. Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Est-ce que ça vous fait sourire ?
Oui.
On a l'impression, avant, il y avait Perfit qui était ministre de l'information.
Ben oui.
On a l'impression que c'est plus libre qu'avant. Comment est-ce que c'est perçu ? Et dans les faits, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est vrai que, notamment les Gilets jaunes ont ravivé cette idée que les médias étaient inféodés au pouvoir, que c'était télé-Macron, et d'autre part, que des grandes puissances d'argent tenaient tous les médias. Ce qui est assez vrai, je veux dire. Mais ça n'est pas nouveau non plus. On a eu Hersant qui avait toute la presse à un moment, on a eu Dassault, je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, il faut quand même rappeler que l'opposition n'est jamais apparue à la télévision, sauf en période électorale, avant 1969. Il faut rappeler qu'effectivement, le ministre de l'Information, heureusement ça n'existe plus, le ministre de l'Information, venait présenter dans le journal télévisé de Léon Zitrone les réformes du journal télévisé. Certains chercheurs ont montré, par exemple, que pendant la période de De Gaulle, des fictions étaient écrites par des ministères pour dire un certain nombre de choses qu'on voulait faire passer. On peut multiplier les exemples comme ça. Donc, c'est mieux aujourd'hui.
Ouais.
Voilà, c'est ma réponse est très claire.
C'est mieux aujourd'hui. Quel plaisir d'entendre cette phrase, c'est mieux aujourd'hui, après avoir entendu tous les jours, c'était mieux avant. Merci beaucoup François Josse. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, vous êtes sémiologue. Sémiologue, c'est l'étude des signes. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Médias, sortir de la haine. Il y a un point d'interrogation et c'est paru aux éditions du CNRS. Et là, je mets un point d'exclamation. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. Nous serons avec des journalistes, justement. Bernard Lavillardière, le présentateur d'Enquête Exclusive, et le rédacteur-chef Arnaud Levert pour une nouvelle enquête dans le plus grand pays de Maghreb où il est très 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 difficile, pour ne pas dire impossible, de filmer, l'Algérie. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Bernard Lavillardière.
Bonjour.
Faut-il vous présenter, journaliste, présentateur d'Enquête Exclusive sur M6 et producteur avec votre société Ligne de Front. Avec nous également en face de vous, Arnaud Levert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur-chef chez Patrick Spica Productions qui a produit le document qui passe ce dimanche dans Enquête Exclusive. Ça s'appelle Algérie, le pays de toutes les révoltes. Une enquête qui a duré plusieurs mois aux quatre coins du pays. Filmer en Algérie est quasiment impossible. Comment vous avez travaillé sur place ?
Alors c'est une enquête, c'est un film qu'on a réalisé sur plusieurs années même. On a mis 2 ans et comme les journalistes français peuvent difficilement avoir un visa pour aller en Algérie, c'est même quasiment impossible. On a dû travailler avec des équipes locales qui ont des autorisations, avec des équipes binationales aussi qui peuvent voyager d'un pays à l'autre. Voilà ce qui nous a permis de tourner. On a travaillé également avec des caméras parfois un peu discrètes, parce que même avec des autorisations sur place, on est régulièrement arrêté. Vous partez le matin pour faire les interviews. Vous vous retrouvez au poste au commissariat de police et vous y passez la journée, donc c'est quasiment impossible parfois de travailler.
J'allais justement vous demander ça, comment avez-vous réussi à avoir des autorisations, ou alors même différemment, qu'avez-vous dit aux autorités algériennes pour avoir l'autorisation de tourner ?
On a travaillé avec des équipes locales qui, eux, ont des autorisations de tourner. On
D'accord.
a voilà, différentes équipes qui ont accepté de participer, de nous aider à faire ce projet. Donc c'est ça qui nous a permis de tourner sur place.
Habituellement, dans cette émission, je reçois le ou la journaliste qui a signé l'enquête. Cette fois-ci, ce n'était pas possible. Pour quelle raison et quel est le contexte ?
Parce que déjà, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet. Alors il y a eu effectivement un journaliste qui a chapeauté tout ça. Mais qui préfère rester dans l'anonymat, travailler sous pseudo, parce que c'est pour pouvoir continuer à travailler justement là-bas, c'est pour pouvoir continuer à faire des films, continuer à raconter ce pays, continuer à parler des gens qui y vivent. Voilà, à partir du moment où on s'expose trop, on ne peut plus travailler. On a les autorités sur le dos et aujourd'hui même, certains sont condamnés.
Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Et même parfois, il est même difficile de faire sortir les cassettes, les clés USB, les documents.
Tout à fait.
Ce fut le cas pour ce doc.
On a travaillé avec aussi des gens binationaux, donc c'était facile. Ils pouvaient rentrer, sortir. On n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Mais...
Alors, ça commence par une séquence de tourisme absolument anodine. On voit des Français, et ça illustre exactement ce que vous venez de nous dire, des Français qui visitent un site archéologique extraordinaire qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est à Tipaza. Ils circulent en minibus avec un guide. Interdiction de circuler du minibus, mais devant le minibus, il y a une voiture de police.
Oui.
Ça en dit quand même très, très lourd sur le climat actuel en Algérie.
Oui, mais de toute façon, il y a très peu, excepté les binationaux une fois de plus, il y a très peu de touristes en Algérie. Pourtant, à Alger, il n'y a pas de vrai risque terroriste. Mmh. C'est plus au sud, dans le pays, dans des régions plus éloignées. Mais voilà, c'est ce groupe de touristes intrigue, donc les autorités gardent un œil dessus, ouais. Ils ont suivi toute la journée, ils ont des gardes, ils ne peuvent pas s'éloigner du groupe, voilà, tout ça est très contrôlé.
Alors vous êtes allé filmer à des endroits où on ne va jamais filmer, moi je ne connaissais même pas cette ville, Ouargla, c'est dans le Sahara, c'est une ville de 200 000 habitants, très importante car c'est ici que sont installées les plus grosses entreprises qui exploitent le pétrole, il y a d'ailleurs un tramway flambant neuf, aucune caméra habituellement n'y est autorisée, comment vous avez réussi à aller tourner là-bas ?
On a une fois de plus travaillé avec des équipes locales qui avaient l'autorisation, mais on a aussi travaillé avec des équipes très discrètes, enfin avec des caméras très discrètes, voilà, qui ne se voient pas pour un petit peu éviter les autorités. On a été confronté à la police là-bas quand même.
Il y a des personnages assez incroyables. 50% de la population au chômage. Vous avez trouvé Smaïn, il a 23 ans, il habite chez ses parents. Il est diplômé. il a un diplôme d'études dans la pétrochimie, donc il devrait pouvoir travailler. Seulement, il ne trouve pas d'emploi, il ne se décourage pas. Il va tous les jours dans l'entreprise, qui est cette plus grosse boîte d'Afrique. Exactement. Il prend, faut que je raconte le contexte. Il prend le bus le matin à 7h. Il arrive là-bas 1h30 plus tard. Il demande au vigile à rencontrer le PDG. On lui dit qu'il n'est pas là. Il dit « Ah bon, d'accord ». Il attend 3 ou 4 heures. Et il rentre chez lui. Et là, je me dis, mais il serait pas un petit peu naïf? Comment vous avez choisi ce drôle de personnage?
Mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Hein. Il croise quelqu'un à un moment donné. On en voit d'autres défiler. Je crois que sur toute la journée, les équipes m'ont raconté que voilà, il y en avait plusieurs. Enfin, ils en ont vu plus d'une dizaine défiler. Donc, il est désespéré. Et puis il y croit. On lui a fait des promesses aussi. Ouais. Donc il y croit, il a envie.
C'était une question rhétorique que je vous ai posée, un petit peu embarrassante, parce que je connais la réponse. Et si Smaïn insiste autant, c'est qu'il y a une bonne raison.
Sahil va l'attendre. Il fait près de 45 degrés. Mais il va rester là près de 4 heures. S'il insiste autant pour le voir, c'est parce que pour intégrer cette entreprise d'État, il a passé le concours d'entrée. Il l'a réussi et aurait dû être embauché. Mais chose courante dans le pays, quelqu'un lui est passé devant par piston.
Et là où c'est complètement dingue, c'est que le piston, la corruption là-bas va jusqu'à ce point. On laisse sur le carreau des personnes compétentes dont l'industrie a besoin pour choisir des personnes moins compétentes.
Oui. Il y a d'ailleurs deux jeunes à la fin qui font une blague concernant Messi. Voilà, qui disent lors d'un match de foot, si on avait Messi là sur le terrain, il serait capable de le remplacer par un fils d'eux. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce pays.
Une fois au PSG, ils avaient Ronaldinho, ils l'ont mis remplaçant, qui était à l'époque le meilleur joueur du monde. Je dis ça, je dis rien. C'est risqué d'envoyer des gens là-bas en Algérie. Bernard Lavillardière, vous avez une responsabilité. Je vais dire pourquoi je vous pose la question, parce que 5 fois, à 5 reprises, vos équipes d'enquête exclusive ont été arrêtées ou refoulées au Venezuela, à Cuba, en Algérie en 2009, au Cachemire et au Kazakhstan.
Ça a été mon cas notamment à Cuba et à Venezuela. Oui, c'est pour ça que c'est un hommage que je rends notamment aux producteurs comme Patrick Spica, comme Tony Comiti qui travaille pour nous, qui travaille pour Enquête Exclusive. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, quand on voit quelqu'un en Afrique ou dans certaines régions d'Asie, etc., il y a un principe de responsabilité où il faut faire attention effectivement aux équipes et on tâche dans ces pays-là de leur trouver ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît les règles, qui connaît les règles de sécurité notamment, qui sait à quelle heure il faut aller dans tel ou tel quartier, combien de temps il faut rester sans risquer l'enlèvement, etc. Enfin, je parlais de l'Afrique et de l'Asie, mais c'est aussi le cas du Mexique. Par exemple, on a fait 2 sujets sur le Mexique qu'on va diffuser bientôt dans Enquête Exclusive que j'ai produit via Ligne de Front. Et le journaliste Vincent Prado a vraiment pris des risques pour aller interviewer des gens du cartel de Sinaloa.
On continue de parler de l'Algérie et d'Enquête Exclusive. Vous restez avec nous, Arnaud Levert, Bernard Lavillardière. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bernard Lavillardière, présentateur d'Enquête Exclusive, Arnaud Levert, rédacteur en chef. Il a chapeauté le sujet Algérie, le pays de toutes les révoltes. Et si nous ne recevons pas le journaliste qui a fait le sujet, c'est parce que c'est plutôt pour des raisons de sécurité. Juste un mot, Bernard Lavillardière. Habituellement, Enquête Exclusive passe en deuxième partie de soirée. Ce dimanche, c'est à 21h. Pour quelle raison? Pourquoi ce choix?
Ah non, je crois pas que ce soit 21h. Non, c'est à 23h.
Ah bon?
Reste à 23h.
Sur le dossier de presse, il est écrit 21h. Ah bon, je l'ai dans ma poche, je peux vous le montrer.
Je suis désolé.
Je peux vous le montrer, c'était ma question.
Pardon.
Comment?
À moins que ça ait été décidé sans que je le sache, mais non, c'est.
Dimanche 20 septembre à 21h05. Ah ouais, je vous l'apprends. Écoutez, c'est votre sujet passe à 21h. Je vous l'apprends, c'est le dossier de presse d'M6.
Normalement, dimanche, voilà. Je crois qu'il y a Capital. Il y a Capital dimanche. Avec Julien Courbet.
Voilà, je reviens.
Qui est une excellente locomotive pour Enquête Exclusive.
Je reviens avec vous, Arnaud Levert. On parle de l'Algérie. 40% des petits boulots là-bas sont noirs. Il y a de plus en plus de jeunes, évidemment, on le comprend, qui rêvent de quitter le pays. Vous avez retrouvé un vendeur à la sauvette. Il vend des nappes en lino. Oui. Je veux dire qu'il faut en vendre des nappes en lino pour gagner sa vie. Oui. Il a tenté 2 fois de partir en Europe sur un petit bateau à moteur. Il a filmé avec son portable et vous avez les images. Ils ont rejoint les côtes de l'Espagne. Ils ont été refoulés. 100 euros d'amende. Et vous avez retrouvé un de ses potes qui est candidat au départ et c'est son témoignage qui est ahurissant.
Pour faire la traversée, il faut payer 3000 euros et le périple est risqué. En 2018, 500 candidats au départ seraient morts noyés. Mais Nesro et Mortar veulent tenter leur chance.
C'est pas grave si on meurt. C'est pas grave. Tout est entre les mains de Dieu. Même ici, nous sommes en train de mourir vivants. Ceux qui sont au pouvoir, on les déteste. On ne leur pardonnera pas. Parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. S'ils avaient mieux géré, ce seraient les Européens qui auraient envie de venir ici. Et pas l'inverse.
Comment ça se passe ensuite avec les autorités algériennes? Vous avez des référés, vous risquez des procès ou pas du tout?
Là, par rapport à notre documentaire?
Oui, en général, quand on fait un sujet comme ça avec un pays étranger.
Ça, on verra, ça peut arriver. Avec d'autres pays, c'est arrivé, oui. Des pays qui portent plainte, c'est arrivé. En tout cas, des acteurs importants des sujets qui portent plainte. On verra si ça se passe ou pas dans ce cas-là. Je ne pense pas. Je pense que tout ce qu'on dit, ce sont des faits avérés. Donc, il n'y a pas de raison.
Et comment on protège la vie de ces gens-là? Leur liberté, parce que c'est un jeune homme qui parle à visage découvert et qui balance quand même fortement contre le pouvoir en place.
Oui, mais il balance pas contre le pouvoir en place. Tout ce qu'il dit, c'est avéré. Les témoins, ce qu'on a filmé, ce sont des choses qui sont connues en Algérie. Ce qui s'est dit dans la rue là, au moment de ces manifestations, au moment du Irak, était beaucoup plus violent. Ce ne sont pas des leaders de ce mouvement de manifestation là, qui a duré plus d'un an, qui s'est arrêté avec le confinement. C'est un peu monsieur et madame tout le monde. Tout ce qu'on a montré, finalement, c'est étonnant pour nous. Mais en Algérie, c'est connu. Tout le monde en parle.
C'est connu, mais peut-être que le pouvoir n'a pas envie que cela se sache et que ça s'entende. Bernard Lavillardière, je voudrais qu'on parle du journaliste, puisque vous parliez de ces manifestations qui ont agité l'Algérie tous les vendredis jusqu'au confinement. Ce journaliste algérien, il s'appelle Raled Drareni, vient d'être condamné mardi en appel à 2 ans de prison. Vous le connaissiez personnellement?
Non, pas du tout, non.
Il est le correspondant de TV5 Monde en Algérie, directeur du site Kasbah Tribune. Voilà, il a couvert ces manifestations en Irak. Arrêté en mars dans une manifestation, il avait été condamné en août dernier pour incitation à attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. J'ai même pas besoin de vous poser la question puisque je vois à votre sourire que vous n'en croyez pas un mot.
Ben non, pas du tout. Et d'ailleurs, je me suis mobilisé avec mes collègues présentateurs à l'appel de Reporters sans frontières. C'était il y a une dizaine de jours.
Le 7 septembre.
Manifesté devant l'ambassade d'Algérie. À côté de Laurent Delahousse notamment.
Anne-Claire Coudray également, Xavier Dumoulin, ouais. Rio Zelmak et d'autres.
Pour marquer notre désaccord et notre solidarité avec ce journaliste, mais il y en a d'autres qui sont en prison. Et Raled Drareni, il a moins de 40 ans. Et ce que je trouve remarquable, et j'ai partagé aussi cette admiration pour pas mal de journalistes au Venezuela, au Cuba, etc., en Roumanie, du temps de Ceausescu, c'est des gens qui peuvent partir. Raled Drareni, il avait la possibilité de venir travailler en France. Il y avait des chaînes d'information ici qui voulaient l'embaucher. Il a choisi de rester dans son pays, tout en sachant le risque qu'il courait. Et aujourd'hui, il est en prison pour encore au moins un an et demi. Et je sais qu'il est dans des conditions de détention qui ne sont pas faciles. Ce sont les conditions de détention des prisons en Algérie. Vous savez qu'il y a l'ordinaire qui est agrémenté par le panier apporté par les familles. Aujourd'hui, pour des raisons de Covid, on interdit les paniers. Il a la visite de sa famille, mais on ne lui apporte pas le panier complémentaire de nourriture. Et donc, je sais qu'il a beaucoup maigri, le pauvre homme.
Et je voudrais dire une chose, c'est que TV5, pour lequel il est correspondant là-bas, met en ligne tous ces sujets pour que chacun puisse juger du sérieux de son travail et de son objectivité.
Oui, allez sur Google, regardez. C'est un homme qui a... je ne le connaissais pas, mais je l'ai connu à travers Google. Il a vraiment un charme, un humour, une distance par rapport aux choses qui est formidable.
Vous êtes aussi bavard que moi, du coup, on n'a pas le temps de parler de vos prochains projets. C'est l'occasion pour moi de vous réinviter, Bernard Lavillardière. Merci d'avoir été avec nous. Arnaud Levert, merci. Je rappelle, enquête exclusive, Algérie, le pays de toutes les révoltes. Et je le précise, c'est dimanche, en deuxième partie de soirée, sur M6. On ne se trompe pas cette fois. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On sera avec Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Il a regardé L'Agence, un nouveau programme de TMC. Anne Scott, ensuite, la romancière culte. Elle avait créé un livre dont les droits étaient... dont Madonna voulait acheter des droits. Elle revient avec un nouveau roman totalement différent. Ça s'appelle La grâce et les ténèbres. Et c'est glaçant, c'est absolument passionnant. Et puis dans Les Indispensables, le plein de légumes avec Laurent Mariotte et le mythe Superman avec Clément Le Saffre. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.